Si on nous disait qu'il est possible de lancer une vraie ligne de production manufacturière avec, allez, le prix d'une petite voiture d'occasion.
Ouais, genre autour de 35 000 dirhams, c'est ça?
C'est ça, exactement. Et si on ajoutait que cette même petite unité génère des marges nettes qui frôlent les 45, voire même 53%?
C'est des chiffres qu'on voit d'habitude dans la tech, ça.
Absolument. Avec un retour sur investissement plié en genre 3 mois, on se dirait tous que c'est une start-up de la Silicon Valley qui fait de l'intelligence artificielle.
Ben en fait, pas du tout. Le modèle qu'on va regarder aujourd'hui, il n'a pas besoin de serveur ou de code informatique.
Non, il a juste besoin d'un garage d'une vingtaine de mètres carrés, au Maroc, de quelques seaux de caoutchouc liquide et d'une machine sous vide.
C'est vraiment le contraste parfait. On est sur l'industrie très lucrative et pourtant très méconnue du moule en silicone.
Et pour faire ça bien, on s'appuie sur une source super détaillée. Un guide d'investissement publié en août 2026 par la plateforme monprojet.ma.
Ouais, c'est une référence experte sur le marché marocain et je suis ravie qu'on s'y penche parce que c'est un sujet fascinant.
Complètement. Ok, décortiquons ça. Pourquoi c'est considéré comme un des projets les plus rentables de 2026?
Bah, ça illustre parfaitement cette notion de micro-industrialisation. Le guide ne parle pas du tout d'un petit passe-temps du dimanche, tu vois.
D'accord.
C'est une vraie stratégie pour remplacer les importations. L'idée, c'est de trouver les failles de la mondialisation et de fabriquer sur place ce que tout le monde s'obstine à faire venir de l'autre bout de la planète.
C'est un peu comme réaliser que, pendant la ruée vers l'or, bah, ceux qui s'en mettent plein les poches, c'est ceux qui vendent les pelles.
Exactement.
Sauf que là, c'est des moules. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pour comprendre cette rentabilité féroce avec un objet aussi basique, faut regarder le point d'odeur initial.
Le problème de l'approvisionnement, oui.
Voilà. Aujourd'hui, un pro au Maroc qui veut un moule pour du béton, de la cire ou je sais pas du chocolat, son premier réflexe, c'est l'importation.
Ouais, il va sur AliExpress ou Amazon et il achète un truc expédié de Chine ou de Turquie.
Et le marché est saturé par ça. Mais c'est quoi le souci avec ce modèle global?
Bah, il marche bien pour le particulier qui a tout son temps, mais pour un artisan ou une petite industrie, c'est une autre histoire.
C'est trop long.
C'est un tunnel d'attente de 15 à 45 jours. Et au-delà de la lenteur, il y a une incertitude totale sur la qualité du silicone à l'arrivée.
Ah oui, la fameuse surprise du colis déballé.
C'est ça. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que le point névralgique, c'est l'absence de personnalisation. Tu achètes ce qui est dans le catalogue et point final.
Et l'alternative locale, j'imagine que c'est le bazar du coin ou le revendeur spécialisé.
Ouais, mais là, on tombe sur un autre mur. Tu as le produit tout de suite, mais c'est du standard extrême.
Genre le moule à gâteau classique ou le petit carré basique, quoi.
Exactement. Souvent d'une qualité bof, pensée pour le grand public. Demander un logo spécifique ou une dimension au millimètre, c'est juste impossible.
D'où le vide béant sur le marché. Le sur-mesure international est trop lent et le stock local est trop générique.
Et c'est là que le petit atelier de fabrication locale s'engouffre. Un artisan équipé peut concevoir le modèle, couler le silicone et livrer un moule 100% personnalisé en 48 à 72 heures.
Attends, je bloque sur un point là.
Vas-y.
On parle face à des géants de la logistique qui livrent pour quelques centimes. Ils produisent des millions de pièces. Comment un atelier dans un garage peut survivre à cette guerre des prix? Les clients sont vraiment prêts à payer beaucoup plus cher juste pour gagner quelques semaines?
Ah bah absolument. Dans le milieu professionnel, le temps et la différenciation, ça vaut 1 000 fois plus que le coût matériel.
Ouais, c'est pas faux.
Imaginons un pâtissier de luxe, il a un contrat pour un gros événement d'entreprise et doit faire 500 entremets avec la forme du logo du client.
Ah oui, il peut pas dire au client, attendez un mois et demi que mon colis arrive de Shenzhen.
C'est exactement ça. Surtout avec le risque que le moule arrive déformé ou à la mauvaise taille. L'incertitude, c'est le pire ennemi d'une boîte.
Donc payer l'artisan local, c'est s'offrir de la tranquillité d'esprit en fait.
Voilà, un contrôle qualité immédiat, des allers-retours rapides sur les prototypes et on est sûr de tenir les délais. Le client n'achète pas du silicone, il achète de l'agilité.
C'est un changement de paradigme. On vend de la réactivité et ça m'amène à la clientèle. Qui achète ça?
Le rapport de monprojet.ma découpe ça en 3 gros piliers. Et si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, tu vas voir qu'il y a une vraie logique de progression. Le premier pilier, c'est celui dont on vient de parler, la pâtisserie.
Artisanal ou industriel d'ailleurs. Et là, il y a un obstacle mécanique de taille.
Les normes alimentaires, faut pas rigoler avec ça.
Ouais, on coule pas du chocolat dans du vieux plastique toxique.
C'est ça. Le fabricant doit impérativement utiliser un silicone certifié FDA pour les normes américaines ou LFGB pour l'Europe.
D'accord. Et financièrement, c'est intéressant la pâtisserie, hein?
C'est pas mal. Les chefs cherchent toujours l'innovation visuelle. Un moule sur mesure se facture entre 50 et 300 dirhams. Ça fait un volume d'affaires régulier, vu que les collections changent à chaque saison.
C'est un bon fond de roulement. Ensuite, le deuxième pilier, je trouve ça super intéressant, c'est le produit de notre époque numérique. Le secteur de la décoration, le DIY, le do-it-yourself.
Ah oui, les créateurs de bougies, la résine époxy, le plâtre décoratif, c'est un marché sous perfusion des réseaux sociaux, ça.
C'est clair. Faut que ce soit beau sur Instagram ou TikTok.
L'économie visuelle bat son plein ici. Ces micro-entrepreneurs doivent se démarquer, donc ils réclament toujours de nouvelles formes géométriques ou organiques.
Et ça demande aux fabricants une sacrée précision pour choper le micro-détail de la texture, non?
Absolument, mais ça fait du volume. Cela dit, le vrai jackpot, c'est le troisième pilier.
Le bâtiment et l'industrie, là on change carrément de ligue. On rigole plus avec de la cire, on coule du béton armé pour du prototypage ou des claustrats.
Et la facture unitaire, elle fait un bond. On n'est plus à quelques dizaines de dirhams. On dépasse allègrement les 2000 dirhams par pièce.
C'est ouf, mais on commence pas par ça, j'imagine. C'est la stratégie du cheval de Troie un peu.
Exactement. Tu démarres avec les pâtissiers et les petits créateurs sur Instagram. Ça fait rentrer du cash rapidement, avec des petits moules faciles à faire.
Ça permet de se faire la main sur la technique.
Voilà, tu comprends comment réagit le silicone, tu te fais un portfolio, et une fois que t'es solide, paf, tu vas taper aux portes de l'industrie avec tes preuves.
La méthode de l'escalier, quoi.
Alors, comment on structure ça concrètement? Parce que le document donne deux scénarios d'investissement très précis.
Ouais, commençons par le scénario de base, le starter. Il est évalué à 35 000 dirhams.
Alors, à ce prix-là, j'imagine que c'est très minimaliste.
Très. Déjà, le statut juridique, c'est auto-entrepreneur, pour alléger la paperasse et les taxes au début. Et pour le local, pas besoin d'une usine.
Un garage bien ventilé, avec des tables droites, ça passe.
Amplement. Côté équipement, c'est rationnel. Il te faut ce fameux silicone qu'on appelle RTV, une bonne balance au gramme près et une petite étuve. Attends, RTV, ça veut dire Room Temperature Vulcanizing, la vulcanisation à température ambiante. C'est là le secret du business en fait.
C'est le cœur du truc. Avant, pour cuire du caoutchouc industriel, il fallait des fours immenses, des températures de dingue, une facture d'électricité monstrueuse.
Ouais, la grosse industrie lourde, quoi.
Et le silicone RTV, bah c'est juste deux liquides, une base et un catalyseur. Tu les mélanges, la chimie opère, et le truc devient un caoutchouc solide et souple, juste à la température de la pièce.
C'est génial. Avec ça, l'étude projette une production de 8 à 12 moules par jour, ce qui fait environ 150 moules vendus par mois aux petits créateurs.
À un prix moyen de 120 dirhams le moule.
Ce qui donne 18 000 dirhams de chiffre d'affaires par mois. Mais alors qu'est-ce que tout ça signifie niveau rentabilité? Parce que le coût de revient du silicone par moule, il est estimé entre 30 et 45 dirhams.
Oui, c'est très bas.
Ça laisse un bénéfice net de 8 000 dirhams. Une marge de 44% et le ROI en 5 mois. Je fais l'avocat du diable, mais c'est pas un peu trop beau pour être vrai.
C'est parce qu'on regarde le problème du mauvais côté. Le client, il va pas peser le moule pour vérifier combien t'a coûté la matière.
C'est sûr.
C'est vrai que le silicone brut coûte entre 150 et 350 dirhams le kilo. Mais ce qu'on vend, c'est la conception 3D, le temps de séchage, la garantie d'absence de fuite. C'est de l'ingénierie miniature, en fait.
Ah, la valeur intellectuelle écrase le coût du plastique. Je vois.
Voilà.
Ce qui prend tout son sens quand on regarde le deuxième scénario, le scénario avancé. Là, l'investissement monte à 90 000 dirhams.
On change de statut, on passe en SARL. Et surtout, on achète une imprimante 3D pour faire ses propres modèles. Et l'arme secrète absolue, le mélangeur sous vide.
Ah, ça, c'est pour régler le problème des bulles, non?
C'est la ligne rouge entre l'amateur et le pro. Quand tu mélanges les deux liquides RTV à la main, tu fais entrer plein d'air.
Ça fait une espèce de mousse microscopique.
Exactement. Et si tu coules ça, l'air va se loger dans les micro-détails. Quand tu démoules, tu te retrouves avec plein de petits trous.
Et j'imagine que le gars du bâtiment qui coule du béton dedans, il va pas apprécier.
Bah, chaque petit trou dans le moule va faire une verrue sur sa pièce en béton. En B2B, c'est juste mort. C'est inacceptable.
D'accord. Donc, la cloche sous vide, concrètement, ça marche comment?
C'est de la physique de base. Tu mets ton pot de silicone mélangé dans un caisson relié à une pompe. Tu aspires l'air, la pression devient négative.
Et les bulles remontent?
Ouais, la différence de pression fait gonfler les bulles, elles remontent et elles éclatent à la surface. En quelques minutes, t'as un liquide parfait, lisse et dense.
Magique. Et donc, niveau chiffre, avec ce matos, on passe à 20 ou 30 moules par jour orientés B2B. Le chiffre d'affaires grimpe à 60 000 dirhams, le net à 32 000 dirhams.
Et la marge passe à 53%, avec un remboursement de l'investissement en à peine 3 mois.
Ouais, c'est dingue. Mais si c'est si rentable, pourquoi on ne voit pas un fabricant de moules à chaque coin de rue au Maroc? C'est quoi le piège?
La barrière, elle est bureaucratique, pas technologique. Légalement, c'est pas considéré comme un petit atelier d'artisan.
Ah bon?
Non. Ça tombe dans la case « fabrication d'autres matériaux en plastique ». Il faut s'inscrire sur la plateforme gouvernementale rocas.ma et la procédure est assez stricte.
Le DID parle de 4 à 8 semaines de paperasse. Un cahier des charges, un plan d'architecte pour le local et un truc qui va faire halluciner, l'enquête de Komodo Incomodo.
Ah oui, cela soulève une question importante sur l'anticipation. Pendant 15 jours, l'administration te force à mettre un gros panneau sur ta façade.
Pour dire aux voisins ce que tu vas faire, c'est ça, hein?
C'est ça. L'idée, c'est que les riverains peuvent aller consulter le dossier à la mairie et s'opposer au projet s'ils ont peur du bruit, des odeurs ou des camions.
C'est littéralement le truc des mariages dans les films, genre « si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais ».
Ouais, la version urbanisme. Et pendant 2 semaines, tu pries pour qu'aucun voisin grognon vienne déposer un recours.
Même si ça sent rien et que ça fait pas de bruit comparé à la vraie injection plastique.
Oui, mais l'anticipation, c'est le nerf de la guerre. Tu vas pas signer ton bail, claquer 90 000 dirhams d'équipement et commencer demain. Faut la validation de la commune, la signature électronique du président. Bref, faut une trésorerie pour tenir ces mois d'attente.
Bon, mettons que tout est validé. L'atelier tourne. Mais après 2 mois de silence, comment tu trouves des clients avant même que la peinture soit sèche?
Là, on rentre dans une stratégie hybride. D'un côté, le digital, avec un énorme focus sur le visuel. Le rapport insiste beaucoup sur TikTok, Instagram et Google My Business.
Bah oui, la création de moules, c'est du contenu. Satisfying, non? Les vidéos ultra apaisantes.
C'est parfait pour ça.
Le liquide coloré qui coule lentement sur l'objet. Et puis le démoulage, où l'objet sort parfaitement du bloc. Ça hypnotise le cerveau. Ça génère des millions de vues toute seule.
Et c'est là qu'intervient la psychologie des prix. Tu proposes le moule à 99 dirhams au lieu de 100, ou un pack de 3 à 249, et tu convertis ces vues en vente.
C'est brillant. Sauf que 1 million de vues sur une vidéo d'ours en résine à paillettes, c'est cool pour vendre aux amateurs, mais ça va pas te ramener le directeur des achats d'une usine de ciment pour le B2B, si.
Absolument pas. Le patron de l'usine, il scrolle pas sur TikTok pour trouver ses sous-traitants. C'est pour ça que la stratégie digitale sert juste à créer le flux de trésorerie de base.
Et la bascule B2B alors?
On revient aux bonnes vieilles méthodes, le démarchage physique. Tu prends tes plus beaux prototypes physiques dans une mallette et tu vas taper aux portes.
Les cabinets d'architectes, les quincailleries de gros.
C'est ça. Ou même les écoles de pâtisserie pour équiper les élèves. Le B2C se gagne en ligne, mais le B2B, ça se signe en vrai, avec une poignée de main et l'échantillon sur le bureau du gars.
Ça fait un sacré grand écart. Et ça m'amène au risque du modèle, parce que tout n'est pas rose. On avoue le problème des bulles avec la cloche sous vide, mais le guide pointe un autre danger énorme.
Le talon d'Achille, ouais. La chaîne d'approvisionnement en amont. C'est le paradoxe de ce business. Tu court-circuites l'importation de produits finis pour tes clients.
Mais toi-même, tu dépends totalement de l'importation de ta matière première.
Exactement. Le silicone RTV n'est pas fabriqué au Maroc. Il arrive par gros fûts d'Asie ou d'Europe. Si ton seul fournisseur à Casablanca ou Tanger a un souci de douane ou un retard de bateau, bah ton usine elle est à l'arrêt complet.
D'où la règle d'or dont parle l'analyse. Ne jamais être exclusif. Faut travailler avec au moins 2 ou 3 importateurs différents.
C'est la base de la survie industrielle. Il faut aussi la trésorerie pour garder un stock tampon de 2 ou 3 semaines.
Il y a aussi la diversification des clients. Si tu vends qu'à des pâtissiers, avant le ramadan, tu croules sous les commandes. Mais en plein mois d'août, tu tournes à vide.
C'est pour ça qu'équilibrer entre l'alimentaire, la déco et le bâtiment, c'est indispensable pour lisser des revenus sur l'année et pérenniser la boîte.
Franchement, la prochaine fois que je verrai un gâteau avec une forme géométrique de fou dans une vitrine de luxe ou un claustrat hyper design en béton, je vais plus juste regarder le produit.
Tu vas penser au moule négatif?
Grave. À la petite cloche sous vide dans un garage de 20 mètres carrés et au gars qui a compris que le vrai filon, c'est pas l'objet fini, c'est l'outil qui permet de le faire.
Et c'est ça la vraie leçon de cette analyse. L'hypermondialisation, c'est pas une fatalité inévitable. En comprenant les failles logistiques et les lourdeurs du système, on trouve des opportunités énormes.
Surtout avec les outils d'aujourd'hui, l'impression 3D et le silicone à froid. Les barrières à l'entrée ont complètement fondu.
C'est clair.
Eh bien, ça laisse une vraie question en suspens pour tous ceux qui nous écoutent. Si on peut relocaliser la création d'outils de précision avec un investissement aussi faible que 35 ou 90 000 dirhams, quels autres petits objets du quotidien qu'on fait venir par conteneurs entiers pourraient être fabriqués demain matin dans un garage? Combien de marchés n'attendent qu'un entrepreneur curieux pour tout bousculer? On vous laisse y réfléchir.